Et moi aussi, j'aimerais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, que ce soit un temps mémorable pour vous, qui vienne aussi placer des fois un baume sur votre cœur. On a toutes sortes d'histoires aussi, hein, dans la maternité, dans nos rapports avec nos mamans. Et donc, que Dieu vienne bénir cette journée-là. Ce matin, on continue la série sur les 10 commandements. Et honnêtement, ce n'était pas arrangé, en tout cas pas ici. Mais c'est arrangé avec le gars des vues, et donc on tombe dans le 5e commandement, honore père et mère. Tombe bien, hein? Disons que ça relève de la providence divine ce matin. Et donc les mamans, voyez-le aussi comme un clin d'œil que le Seigneur vous fait dans ce rôle important que vous avez à jouer. Et donc on va aller ensemble dans ce beau passage, mais j'aimerais qu'on puisse se courber pour commencer dans un mot de prière. Père Céleste, c'est vraiment agréable de pouvoir s'adresser à toi, ô Éternel, ce matin en parlant au Père, à celui qui donne la vie, celui qui a conçu la vie, celui qui, à certains endroits dans les Écritures, s'identifie à un cœur de mère qui couve et prend soin. Quelle grâce de te connaître Dieu comme ce parent. Qui est là, qui veille, qui pourvoit, qui instruit, qui enseigne, qui protège, qui guide, qui donne la vie. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur, et nous te demandons de venir nous rencontrer dans ta parole ce matin. Ta parole, Seigneur, donne la vie. Lorsque ton esprit vient l'appliquer dans nos cœurs, elle nous guide sur le chemin de la vie. Et je te prie, Seigneur, de venir parler à tous et chacun ce matin. Venir appliquer ce passage des Écritures dans nos cœurs afin qu'on puisse vraiment grandir, Seigneur, dans ce principe qui n'est pas très à la mode aujourd'hui. Et pourtant est au fondement même de la société, au fondement même de nos rapports les uns avec les autres, de notre rapport avec les êtres humains et de notre relation avec toi. Alors viens, Seigneur, te révéler à nous, viens rendre cela pratique dans chacune de nos vies, et viens, Seigneur, exercer ton ministère par ton Esprit Saint envers nous ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu faite par Matthieu ce matin.
Donc le passage biblique de ce matin est tiré du livre Exode, au chapitre 20, versets 1 à 12. Édition Louis II. Donc, Exode au chapitre 20, versets 1 à 12. Extrait des 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Merci Matthieu. On termine la première section des 10 commandements. Les 4 premiers commandements étaient vraiment clairement plus tournés vers la personne de Dieu, parlaient de notre rapport avec Dieu directement. Et lorsqu'on arrive comme ça dans les 6 commandements suivants, on va davantage être dans notre rapport les uns avec les autres. On parle plus de relations humaines, d'accord, à partir du 6e commandement. Et juste une petite parenthèse comme ça, des fois, vous avez vu des images, on va afficher une image ici, vous avez vu ça, il y a un petit problème avec cette image-là. Je ne sais pas si vous trouvez l'erreur, il y a un petit anachronisme, il y a une erreur historique intéressante ici, c'est quoi? Les chiffres romains, tu sais, les chiffres romains. Les tables de la loi ont été données quand même longtemps avant que les Romains n'existent. Et donc, ça n'existait pas ces chiffres-là, d'accord? Et donc, je fais juste une petite parenthèse pour dire que des fois, vous allez entendre toutes sortes de choses. On se pose la question, comment est-ce que c'était structuré? Certains vont dire, ben ces tables-là, sur la première table, il y avait justement les 4 premiers commandements qui étaient davantage dirigés vers Dieu. Puis ensuite de ça, on avait les commandements qui parlent des relations humaines. J'ai tendance à croire, comme certains historiens que j'ai lus, plutôt qu'on avait 2 copies complètes des 10 commandements, parce que toute cette idée-là de l'alliance qui était faite entre Dieu et son peuple, c'est quelque chose qu'on trouvait à l'époque, des alliances semblables entre un souverain, un roi et un peuple. Une alliance où le souverain s'engageait à donner protection, pourvoir, sécurité, tout ça, et le peuple s'engageait à honorer le souverain. Et c'est sur ce modèle-là qui est faite l'alliance qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et donc, c'était pas rare d'avoir 2 copies de l'alliance, justement. Alors, j'ai tendance à croire que c'est ça qui se passe dans ce cas-ci, d'accord? Mais c'est juste pour les curieux sur la question des tables, puis vous voyez des choses des fois circuler. Alors, ce matin, avant de commencer, j'aimerais demander quelque chose, parce que ce commandement-là s'adresse à des gens en particulier, d'accord? Il s'adresse aux enfants. Alors, j'aimerais que tous les enfants se lèvent, s'il vous plaît, ce matin. Tous les enfants dans la salle, vous vous levez, s'il vous plaît. Tous les enfants se lèvent, s'il vous plaît. Tous les enfants. Est-ce qu'il reste du monde assis? C'est parce que là, peut-être que vous venez d'ailleurs. Madame Paradis, vous êtes un enfant. OK, on va dire ça autrement. Tous ceux qui ont eu des parents se lèvent. C'est-tu bon? Alors, ce matin, tout ce qui va être dit ici dans les 30 prochaines minutes, c'est pour vous. C'est bon? Vous pouvez vous asseoir. Oui, c'est ça. S'il y a quelqu'un comme Jake qui n'a pas de nombril, c'est peut-être pas pour vous. On va vous présenter au FBI. Ils vont faire des études sur toi, Jay. C'est vraiment intéressant d'observer que, alors que dans les 10 commandements, Dieu passe des commandements qui parlent de notre relation avec lui pour parler à présent des rapports humains, que Dieu commence là. Je veux dire, c'est vrai que le rapport avec nos parents est super important, c'est vrai. Mais je veux dire, tout le monde espère que ce ne sera pas la relation de proximité la plus longue dans leur vie, n'est-ce pas? On espère un jour qu'il va y avoir une autre relation qui va prendre préséance sur celle-là, hein? On espère qu'on ne sera pas tous des tanguis, c'est bon? Qu'un jour on va quitter la maison, puis on va vivre l'amour de notre vie, puis quelque chose comme ça. Mais pourquoi il commence avec ça? C'est vraiment intéressant. Parce que c'est clair dans les Écritures que notre responsabilité n'est pas simplement d'honorer nos parents, c'est vraiment d'aimer notre prochain. Tous les rapports humains sont super importants. Tous les rapports humains parlent de notre relation avec Dieu aussi. Alors pourquoi est-ce qu'il commence là? Puis honnêtement, je ne pense pas qu'on a de réponse super claire, mais peut-être. Peut-être que c'est parce que c'est notre première relation humaine. Peut-être que c'est parce que, effectivement, nos parents, c'est les premiers êtres humains avec qui on va être en relation véritable. Avant les frères et sœurs, vous savez ce que c'est, les enfants, hein? Aucun intérêt pour les frères et sœurs à 2 mois. En fait, pour papa non plus, pas beaucoup. Mais la relation avec les parents va être la relation principale. Puis à quelque part, pour tous ceux et celles ici qui sont chrétiens, qui ont élevé des enfants, cherché à élever vos enfants dans la foi, dans la petite enfance, les parents, c'est quasiment, je veux dire, Dieu et les parents, ça se ressemble beaucoup, hein? L'autorité, ce qui est reçu, c'est reçu pas mal comme si c'était Dieu qui était en train de parler. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment une obéissance à ce moment-là. On n'est pas à l'étape des conseils, tu sais. Est-ce que ça tente de manger ce soir ton assiette? On n'est pas là, tu sais. T'es vraiment dans un rapport assez direct. Alors peut-être que c'est parce que cette relation-là est la première, et j'aimerais soumettre cette idée-là. Et là, certains d'entre vous, ça va vraiment vous déranger ce que je veux dire là. Peut-être aussi parce que ce rapport-là qu'on a avec nos parents va définir énormément toutes nos relations humaines pour le reste de la vie. Certains d'entre vous vous dites, « Hey, je décroche, c'est fini, bonhomme. » C'est pas vrai que mon rapport avec mes parents définit mes relations humaines après. C'est pas vrai, ça. Pense-y comme il faut. Alors qu'on est dans les premières années de notre vie, puis qu'on apprend à entrer en interrelation, puis que nos parents sont là pour nous guider, peut-être que cette relation-là va définir énormément de choses sur la suite de notre vie. Et alors que j'aborde ce sujet-là ce matin, je veux simplement reconnaître que c'est un sujet qui est sensible pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, c'est sensible parce que si cette relation-là est tellement importante, c'est une relation aussi qui peut faire extrêmement mal. Et donc, certains d'entre nous, on va passer notre vie à essayer de corriger des choses qu'on a vécues ou qu'on a subies avec nos parents. Parce que tous les parents sont bien loin d'être parfaits, n'est-ce pas? Et certains des parents sont tout simplement de très mauvais parents. Des êtres qui sont centrés sur eux-mêmes, qui négligent, qui abandonnent. Et donc, vous avez votre histoire avec vos parents. Et je suis conscient ce matin que je m'engage dans une zone sensible, d'accord? Maintenant, ce que je peux vous dire par expérience personnelle, mon épouse et moi, on vient de deux foyers brisés, d'accord? Mon épouse beaucoup plus jeune, dans son enfance, moi au début de l'adolescence, mais ces expériences-là personnelles ont profondément défini qui nous avons été pendant des années et continuent à définir un peu ce que nous sommes, d'accord? Parce qu'on écrit notre histoire sur un fondement quelconque. Mais donc, j'aimerais vous dire ce matin, par expérience personnelle, je parle pour moi ici, je parle d'un cheminement qui était long, qui était difficile, mais par expérience personnelle, je crois profondément que la grâce de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ, est capable d'opérer des miracles extraordinaires dans ce domaine-là aussi de nos vies. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre vous. Alors, je suis conscient que je m'en vais dans une zone délicate. Pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont être dites. Vous allez dire, si tu connaissais mon histoire, bonhomme. Si vous connaissiez mon histoire, vous entendriez une histoire de grâce où l'Évangile est venu faire la différence. C'est mon expérience. En même temps, on vit à une époque particulière où honorer les parents, c'est pas quelque chose qui est à la mode. Je sais pas si vous écoutez un peu la télé, vous suivez des téléséries sur le web, des choses comme ça. Cherchez des références où vous voyez vraiment ces valeurs-là d'honorer les parents. C'est pas tellement trendy, d'accord? Alors, l'image qu'on a des enfants, c'est plutôt des êtres émancipés qui réfléchissent par eux-mêmes très rapidement, qui ont toutes sortes de conseillers à la maison ou ailleurs, qui les aident à définir leur propre sens dans la vie, leurs propres valeurs, faire leurs propres choix. Et lorsqu'on a des instituteurs, ça m'a frappé à travers les dernières années, lorsqu'on a des gens qui ont été instituteurs, professeurs, enseignants dans d'autres cultures, et qui viennent pour tenter d'exercer cette profession-là au Québec, c'est le choc total. Parce qu'il faut premièrement que tu sois un gardien de prison, que tu sois un policier, que tu sois exercé aux arts martiaux, que tu sois un animateur de foule, que tu sois capable d'attirer l'attention au stade olympique pour pouvoir enseigner dans une classe, d'accord? Alors, on n'est pas en train de parler d'une valeur qui est très, très, très à la mode, qui est enseignée. Personnellement, avant d'être pasteur, j'étais éducateur spécialisé. Appeler des parents pour leur dire, garde, ça marche vraiment pas à l'école. Puis le jeune me disait, avant que j'appelle les parents, appelle-les mes parents, ils vont dire que j'ai raison. J'appelais les parents me disaient, vous êtes vraiment une gang d'incompétents si vous n'arrivez pas à contrôler mon enfant puis à l'aider à apprendre. Alors, on parle d'environ 15 ans d'arrière. D'accord? 15 ans en arrière. On continue cette belle évolution ensemble, n'est-ce pas? Bien, simplement pour dire, plus ça change, plus c'est pareil. Voici ce qu'un homme a dit un jour. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. C'est qui a écrit ça? C'est pas un chroniqueur dans le journal la semaine dernière. C'est un monsieur qui s'appelait Socrate, 400 ans avant Jésus-Christ, philosophe et mathématicien grec. Alors, plus ça change, plus c'est pareil, d'accord? Je pense que ces principes-là sont encore bons pour aujourd'hui. Ça va? Alors, allons-y rapidement ensemble. Premièrement, honorer nos parents que nous voyons pour honorer le Père que nous ne voyons pas. Commençons par le début. Honorer Dieu pour ensuite honorer les hommes. Je veux quand même relever le fait que dans les 10 commandements, Dieu commence par sa personne. Voici ce que le réformateur Jean Calvin a écrit sur cette idée-là et ce qu'on devrait retenir, apprendre de ça. Voici ce qu'il dit. Le fondement de la droiture est l'adoration de Dieu. Donc, il dit avant même de penser à marcher droitement comme il faut commencer par se tourner vers Dieu. Lorsque cela est mis au second plan, toutes les pièces de cet édifice, comme celle d'un immense bâtiment, sont ébranlées et affaiblies. Sans la crainte de Dieu, et Calvin entend ici honorer Dieu, sans la crainte de Dieu, les hommes ne cultivent pas le partage et l'amour. C'est pourquoi nous disons que l'adoration de Dieu est le fondement de la droiture et de la justice. Alors, si vous avez de la difficulté à honorer vos parents, moi, je vous soumets l'idée suivante. Commencez par mettre de l'ordre dans votre rapport avec Dieu. Et probablement que si vous avez de la difficulté à honorer vos parents, on va définir ça dans quelques instants de quoi on parle honorer. Probablement que si vous avez de la difficulté à honorer vos parents, probablement que votre relation avec Dieu n'est pas très saine. D'accord? Et c'est une des grâces de vivre et de marcher par la foi, c'est que lorsque mon rapport avec Dieu est sain, lorsque j'ai appris à honorer Dieu, les relations humaines deviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus simples. Je vois des visages dans la salle et je connais des gens qui m'ont raconté des histoires dans les dernières années où lorsque leur rapport avec Dieu s'est placé, leurs relations humaines se sont tellement simplifiées, même lorsqu'elles sont difficiles. Et donc, il y a cette idée dans les Écritures qu'on commence par honorer Dieu pour ensuite pouvoir honorer les hommes, les êtres humains qui sont autour de nous. Et si, dans ton rapport régulier avec tes parents, tu es toujours en conflit dans ton cœur et peut-être dans la relation, probablement que ça en dit long sur ta relation avec Dieu. Probablement que ça en dit long sur ta relation avec Dieu. Maintenant, le contraire est aussi vrai. Le contraire est aussi vrai. Honorer mes parents que je vois pour honorer mon Père céleste que je ne vois pas. Voyez-vous, on peut avoir tendance à croire que la spiritualité, c'est quelque chose qui est dans une case définie, c'est quelque chose que tu pratiques le matin. Quand tu te lèves, tu sais, tu te dis, j'écoutais quelqu'un sur une réflexion bouddhiste hier, et puis il disait, c'est quoi votre secret pour être en paix? Puis ce maître bouddhiste disait, bien, je ne quitte jamais mon endroit de méditation à travers toute la journée. En ce sens, il est en train de dire, là où j'ai trouvé la paix, dans mon esprit, je reste là toute la journée, d'accord? Et après ça, je m'en vais dans le restant de ma journée. Donc, on peut imaginer la spiritualité comme quelque chose qui est là, dans un endroit, on se lève le matin, puis je vais aller pratiquer ma spiritualité, je vais aller me connecter avec le Très-Haut, tout ça. Puis ça, c'est dans un domaine, c'est comme dans une case. Mais dans les Écritures, c'est pas ça qu'on voit. Dans les Écritures, dans la Bible, ce qu'on voit, c'est que nos rapports humains parlent énormément de notre spiritualité, de notre relation avec Dieu, et notre relation avec Dieu parle énormément de nos rapports humains. Ces choses-là parlent toujours, dans le fond, de ce qui se passe dans mon cœur. Et donc, il y a un beau passage dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean 4:20. Je vais juste vous le lire rapidement, ce ne sera pas affiché. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, si c'est vrai de dire qu'en commençant par mettre de l'ordre dans ma relation avec Dieu, ça va venir affecter positivement mon rapport avec mes parents, c'est aussi vrai de dire que j'ai pas à me faire à croire que tout est cool dans mon rapport avec Dieu si je ne trouve pas le moyen d'honorer mes parents. Ce serait une illusion, d'accord? Ce serait de la religiosité dans ce qu'il y a de plus crasse. Mauvaise relation avec les parents, j'honore pas mes parents. Puis en même temps, je me présente comme un bon chrétien spirituel. C'est comme ça qu'on fait fuir les gens de la foi. C'est comme ça qu'on hérite des proches. C'est vrai aussi pour des parents. Très bonne relation avec Dieu, prétendument, mais très mauvaise relation avec mes enfants. J'irrite constamment mes enfants. C'est la meilleure manière de faire fuir tes enfants de la foi chrétienne. C'est de leur dire que finalement, ça sert juste à être hypocrite, cette patente-là. Alors, l'idée suivante est d'honorer mes parents que je vois pour honorer mon Père céleste que je ne vois pas. Et je vais travailler sur cette relation-là avec mes parents parce qu'elle va parler de ma relation avec Dieu. Une autre idée qu'on voit qui est présente, qui est super importante, puis ça n'a pas de l'air tellement hot à notre époque, d'accord? Vous allez dire, ça va de soi, mais à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Le passage ne dit pas « honore ton père ». Le passage dit « honore ton père et ta mère ». Et puis un petit peu plus loin dans cette section-là de l'Ancien Testament, dans la section de la loi, vraiment, dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, verset 3, voici ce qu'on lit. « Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ça a l'air vraiment de rien, mais pour l'époque, c'était très clair que Dieu est en train de dire « Père et mère sont deux créatures de Dieu à honorer et à respecter sur le même pied d'égalité. » Maintenant, ça, c'est un challenge pour nous, parce qu'on a toujours des relations qui sont plus faciles puis des relations qui sont plus difficiles. Je veux dire, si vous pensez à vos parents, quel que soit votre âge, là, si vous pensez à vos parents, il y a des rapports qui sont plus faciles, d'autres qui sont plus difficiles, n'est-ce pas? Ceux qui ont eu des enfants, il y a des enfants avec qui, bon, ça clique, tout est naturel, puis l'autre, tableau, il me ressemble tellement que j'ai toujours le goût de le ramasser. Mais clairement, ce qui est dit ici, c'est que j'honore vraiment mes parents dans la mesure où j'honore celui avec lequel c'est le plus difficile. Et donc, je dois honorer père et mère. Et je ne vais pas m'attarder sur ça parce que j'ai peu de temps pour le faire ce matin. Mais pour moi, ce qui me troublait cette semaine personnellement, c'est que ça dit à quel point moi, je dois honorer mon épouse aussi. Pour que mes enfants aient ce modèle-là. Et Dieu sait que je suis loin d'être parfait parce que des fois, il va y avoir des commentaires, des choses qui vont sortir où il n'y a pas cet honneur-là qui est là. D'accord? Et donc, on voit cette idée qu'on doit honorer père et mère, absolument. Très brièvement, pourquoi honorer nos parents? Le passage est très court, en fait, je me promène un peu partout dans les Écritures ce matin, puis honnêtement, je me préparais, je pourrais facilement passer 3 semaines sur le sujet. C'est vaste dans les Écritures, mais brièvement, juste comme ça, en bullet point, je vous donne pourquoi honorer nos parents? Bien, ils nous ont donné la vie. Évidemment, ils nous ont donné la vie. Ils ont pourvu à tant de nos besoins. Tellement de nos besoins. Ils ont plus de vécu et d'expérience. On trouve cette idée dans les Écritures. Je n'irai pas voir les passages. Trop de matière à voir ce matin. Parce que Dieu en est glorifié. Je cherche à honorer mes parents parce que Dieu en est glorifié. Quels que soient les parents que j'ai, Dieu en est glorifié. Parce que c'est la bonne chose à faire. Et on vit à une époque où des fois, il y a des choses qui relèvent du gros bon sens, puis on dirait que c'est comme disparu de la map. Allô, c'est la bonne chose à faire, honorer tes parents. Ils t'ont donné la vie, ils pourvoient tes besoins. Tais-toi, honore-les. Je sais qu'ils ne sont pas parfaits, honore-les. Ça va de soi. Puis quelque chose d'étrange ici, ben, pour vivre vieux. Honore tes parents pour vivre vieux. Et juste quelques minutes là-dessus, brièvement, mais dans Proverbes 3, les versets 1 et 2, voici ce qu'on lit. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » On voit cette idée, spécialement dans l'Ancien Testament, mais ça va revenir aussi dans le Nouveau Testament, qu'honorer nos parents est là comme élément fondateur d'une société. Alors, je vous ramène dans le contexte. On est dans le désert au moment où Israël reçoit les 10 commandements. Ils sont devant le mont Sinaï. Ils se préparent à aller fonder un pays, fonder vraiment une société. Et donc, Dieu est aussi en train de donner des lois, des règles qui vont permettre à cette société-là de fonctionner. D'accord? Et je crois que la promesse est liée, entre autres, à ça. C'est que Dieu est en train de dire, honore tes parents, tu vas te placer sous la bénédiction de Dieu parce que tu vas vivre selon des principes de sagesse, des préceptes de sagesse. Et donc, ils s'en vont construire cette société-là. Et oui, cette société-là va vivre vieille et en santé si elle vit avec cet ordre-là qui vient. Et donc, elle va être placée sous la grâce, sous la bénédiction de Dieu. Donc, ça devient un principe fondateur pour la société. Augustin, un des pères de l'Église, qui a vécu, lui, pas 400 ans avant Jésus-Christ, mais c'est un père de l'Église, donc après Jésus-Christ, 400 ans après Jésus-Christ environ, voici ce qu'il a dit. Il trouvait ça intéressant. « Si une personne n'honore pas ses propres parents, qui épargnera-t-elle? Si dans ton attitude, si dans tes comportements, dans ton cœur, tu es en mesure de mépriser ceux qui t'ont donné la vie, ceux qui ont pris soin de toi à un moment où, si on t'abandonnait 12 heures, tu mourrais comme ça. Si tu es capable dans ton cœur de mépriser ceux qui t'ont nourri, ceux qui t'ont élevé, ceux qui t'ont abrité, ceux qui t'ont habillé, ceux qui t'ont consolé les 1000 fois où tu t'es mis à pleurer, les 10 000 fois où tu t'es mis à pleurer pour rien parce que grand frère avait pris ton joujou. Si tu es capable dans ton cœur d'en venir à mépriser profondément ces êtres-là, comment peux-tu croire que tes rapports humains vont être sains, que tu vas être capable d'aimer celui ou celle avec qui tu vas passer la vie, tu veux passer la vie, qui est juste là pour te donner son amour, mais qui n'a pas donné pendant 15 ans, 16 ans, 18 ans, aujourd'hui 25 ans, 26 ans, 30 ans, avant que tu quittes la maison? Comment tu vas les épargner? Et donc, je pense vraiment que dans ce rapport-là, dans cette relation-là où j'apprends à honorer mes parents, je suis en train d'apprendre à entrer en relation avec un paquet de monde, avec mon prof à l'école. Je suis en train d'apprendre à entrer en relation avec les autorités civiles. Je suis en train d'entrer en relation avec le gouvernement. Je suis en train d'apprendre à entrer en relation avec mon employeur. Je suis en train d'apprendre à entrer en relation avec des gens qui, en principe, sont pas en autorité au-dessus de moi. Mais si déjà je suis pas capable d'honorer ceux qui sont en autorité au-dessus de moi, comment est-ce que je vais honorer ceux qui sont censés être juste mes égaux? Mes camarades de classe, mes collègues de travail, mon voisin dans la maison d'à côté qui a absolument aucune autorité sur moi. Comment je vais apprendre à l'honorer? Parce que voyez-vous, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que Dieu a donné deux commandements. Le premier commandement, deux commandements qui résument tous les commandements. Aimer Dieu, aimer mon prochain. Et donc, on voit ce commandement-là qui parle du rapport avec les parents, mais en réalité, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de préparer ici, c'est nos rapports avec tous les êtres humains. Avec tous les êtres humains, d'accord? Et donc, l'idée, c'est la suivante, c'est que Dieu nous a donné un cœur pour honorer, pour aimer, pour servir. Et ce que j'aime beaucoup dans les Écritures, c'est que Dieu prend des idées qu'on voudrait garder à un endroit très, très conceptuel, très vague. Moi, j'aime l'être humain. Mais encore, quand il a faim, tu lui donnes-tu à manger? Moi, j'aime les gens. Ouais, mais celui qui tombe ses nerfs, tu l'aimes-tu? Et donc, Dieu va prendre des grands termes comme aimer, puis il va dire, OK, on va rendre ça plus concret, d'accord? On va appeler ça honorer.
Wow!
Ça veut dire quoi, ça, honorer? On va le voir dans un instant. Il va appeler ça quoi? Il va appeler ça comme servir. Non, je l'aime. Ouais, tu veux-tu le servir? Moi, je l'aime. Tu veux-tu le servir? Non, je l'aime. Tu veux-tu le servir? Obéir. Respecter. Et donc, les Écritures ne nous permettent pas de se donner bonne conscience en restant avec des concepts vagues. Et Dieu n'a pas dit ici, aime tes parents. Il est un peu plus concret encore. Il dit, honore-les. Honore-les. Regardons un instant qu'est-ce que ça veut dire, honorer nos parents. Le terme qui est là, c'est un mauvais jeu de mots quasiment de dire qu'il est lourd de sens. D'accord? Parce que le terme lui-même, c'est ça qu'il veut dire, lourd. Pesant. Honorer ses parents, ça veut dire ne pas les prendre à la légère. Et le terme est tellement lourd de sens que c'est un terme qui est utilisé plein de fois dans la Bible pour parler de notre relation avec Dieu. C'est un terme qu'on sert pour l'adoration qu'on voue à Dieu. Honorer Dieu, c'est le même terme qui est là qu'honorer mes parents. Donc, c'est lourd de sens. Et ce que ça veut dire, d'accord, dans son sens le plus littéral, c'est considérer la personne que je veux honorer, non pas à la légère, mais comme ayant du poids, comme étant importante, comme étant là, bien présente. Alors, je trouve que l'expression qu'on utilise aujourd'hui en français, « prendre à la légère », répond bien à ça, illustre bien le contraire de ça. Honorer Dieu, c'est ne pas prendre Dieu à la légère. Et quand Dieu parle, je prends le temps d'écouter. Quand Dieu dit « ne fais pas ça », je prends le temps d'obéir. Honorer mes parents, c'est ne pas les prendre à la légère. Ne pas les considérer comme du vent, mais comme des gens qui ont du poids dans ma vie. Littéralement, c'est ça que ça veut dire, honorer mes parents. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je pense que ça parle premièrement d'une question d'attitude. Honorer mes parents commence dans mon cœur. J'apprends à les considérer à leur juste valeur comme ceux qui m'ont donné la vie. Et donc, c'est une question d'attitude. Si tu essaies de te contenir puis de les honorer de manière extérieure, mais que dans ton cœur, ce qu'il y a là, c'est un profond mépris. Et j'ai lutté avec ça pendant des années. Profond mépris pour un de mes parents pendant des années. C'est difficile de les honorer. Souvent, là, j'étais devenu chrétien. Là. J'avais tous mes principes puis tout le kit. Puis... Mais dans mon cœur, il y avait ce mépris-là. Et vous savez comment je m'en rendais compte? De temps en temps, j'étais en train de parler de ce parent-là, puis j'entendais de la colère, du mépris sortir. Puis là, je disais, c'est l'attitude. Alors, honorer commence dans le cœur. C'est premièrement simplement reconnaître le poids qu'occupent mes parents dans ma vie. Et c'est des gens qui ont pourvu, qui m'ont donné la vie. Deuxièmement, ça se traduit en action. Et là, il y a deux termes à retenir. Vraiment, cette idée d'obéissance et de respect. Donc, le respect doit toujours être là, évidemment, mais l'obéissance, c'est vraiment toute la petite enfance, c'est l'enfance, c'est aussi dans une certaine mesure le temps où les enfants sont à la maison, où ils doivent honorer des préceptes de cette maison-là. Mais très concrètement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire obéir à mes parents. Et puis, au fur et à mesure que la relation va évoluer, que je dois leur donner du lousse, puis leur laisser faire des choix par eux-mêmes, bien, je vais plutôt m'attendre à ce qu'ils respectent, d'accord? Et donc, je vais chercher à respecter mes parents. Et ça va demeurer toute la vie. Donc, premièrement, une attitude de cœur. Deuxièmement, c'est plutôt dans le rapport, obéissance, puis de plus en plus du respect qui va être là. Et donc, moi, que mes parents soient chrétiens, pas chrétiens, ce respect-là m'est commandé. Et quand un de mes deux parents qui n'est pas chrétien me fait des remontrances, même si dans ma tête, mon premier réflexe, ce serait de dire « Gadon, ben oui. » Non. Je me fais le devoir, dans ma conscience devant Dieu, de me taire, d'écouter, puis de mettre ça dans la prière. À 43 ans. Et enfin, dernier élément pratique et concret, puis je pense qu'il va devenir de plus en plus pertinent, prendre soin à notre tour de nos parents. Et donc, c'est pour ça qu'au début du message, j'ai demandé à tous les enfants de se lever. C'est parce que la majorité d'entre vous, vous avez quitté la maison, n'est-ce pas? Mais certains d'entre vous, et au conseil, je suis vraiment content, au conseil des anciens, bien, on a des anciens vieux puis des anciens jeunes. Et donc, on est tous à des étapes de vie différentes. Il y en a qui ont des tout petits enfants, il y en a qui ont des ados, puis il y en a qui ont des parents âgés dont ils doivent prendre soin à leur tour. Et ça veut dire ça dans les Écritures. Respecter, honorer mes parents, c'est prendre soin d'eux dans leur vieillesse. Et en faisant cela, je suis en train de plaire à Dieu, de servir Dieu. Les Écritures vont tellement loin que dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée 5:8, voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Cette relation-là avec tes parents va demeurer jusqu'à la fin. Que tes parents soient vraiment honorables ou non, elle va demeurer toujours. Et ça m'amène à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est difficile d'honorer? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est difficile d'honorer? Je vous l'ai dit, Esther et moi, on vient de foyers brisés. Et donc, on a une histoire avec nos parents qui est une histoire d'amour, vraiment, vraiment par la grâce de Dieu. Mais une histoire qui n'a pas toujours été simple, puis encore aujourd'hui, qui, des fois, est vraiment chaotique. Vraiment chaotique. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est difficile d'honorer? Parce que les parents ne sont pas toujours honorables. Certains d'entre vous, vous allez vous rappeler de cette vieille chanson d'un groupe pas super recommandable. Ceux qui ont connu Twisted Sisters, c'est vieux, là. Mais plusieurs d'entre vous, vous connaissez la chanson « We're not gonna take it ». Est-ce que vous vous rappelez du vidéo? Où il y avait ça, c'était pop. Ça, c'était le papa qui s'en venait voir son garçon. Puis lorsqu'on lit attentivement les chansons, on voit un enfant rebelle, mais on voit un enfant rebelle devant un père qui est tellement dur. Tellement dur, tellement mesquin, tellement méchant. Pas évident à honorer. Pas évident à honorer. Et nos parents ne sont pas toujours honorables. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Pour ma part, je l'ai dit au début du message, d'entrée de jeu, je l'ai dit, je pense qu'un facteur super important qui a joué, c'est vraiment ma conversion. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis allé chercher des clés extraordinaires pour honorer mes parents dans toutes les circonstances. J'ai trouvé dans l'Évangile de Jésus-Christ une grâce pour pardonner, pour aimer. Et donc, je pense qu'il est possible d'honorer nos parents, même s'ils sont imparfaits. Les honorer pour ce qu'ils représentent, pour ce qu'ils sont. Et donc, je vais chercher dans mon attitude tout ce qu'il y a d'honorable en eux, même s'ils sont imparfaits. Et est-ce que ça veut dire que les enfants doivent toujours obéir à leurs parents en toutes circonstances? Bien, les Écritures sont claires, la parole est claire. Je n'ai pas à obéir à quelque autorité que ce soit qui me demanderait de contrevenir à la loi de Dieu, de pécher contre Dieu. D'accord? Et donc, au jour où je me convertis, au jour où je deviens chrétien, ma première allégeance qui se replace, dans le fond, c'est le premier commandement, je l'ai dit, c'est aimer Dieu. C'est aimer Jésus-Christ. Jésus-Christ va dire, si quelqu'un aime son père, sa mère, plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Et donc, les choses se placent en ordre. Et il peut arriver qu'un parent veuille entraîner son enfant à faire le mal. Et l'enfant n'est pas tenu à obéir à ce moment-là. Il peut arriver, lorsqu'un enfant est plus vieux, qu'un parent qui n'est pas chrétien lui dise, regarde, tu ne fais pas ça. Et donc, on a accompagné, nous, des gens qui se sont convertis dans un contexte où les parents ne voulaient juste pas donner la liberté de faire un choix spirituel personnel. Puis on a cherché à les accompagner là-dedans pour dire, faut que tu les honores, puis en même temps que tu grandisses dans ta foi, parce que ça va être un témoignage, d'accord? Et donc, l'enfant n'est pas tenu à obéir si le parent veut le conduire à faire le mal. Mais même dans ces cas-là, il est possible de chercher la grâce pour pouvoir honorer mes parents. Et donc, je vais terminer avec cette idée suivante. Lorsqu'on lit les 10 commandements, on est dans l'Ancien Testament, on est au mont Sinaï, puis Dieu est en train de se faire connaître à Israël, et plus on va avancer à travers la Bible, plus on va connaître Dieu. Et lorsqu'on arrive au Nouveau Testament, bien, on franchit une nouvelle étape dans la révélation de la personne de Dieu. On peut découvrir la personne de Dieu dans une mesure où il ne s'était jamais fait connaître, d'une manière comme on ne l'avait pas connu comme ça. Et ce qui est extraordinaire dans la foi chrétienne, c'est qu'on entre dans l'intimité de Dieu en découvrant la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et ça, c'est super important pour nous aujourd'hui comme chrétiens, lorsqu'on veut vivre ce commandement-là, d'accord? Parce qu'à partir du moment où je suis devenu chrétien, que j'ai été orphelin, sans parents, que j'ai eu de bons ou de mauvais parents, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai maintenant un bon père, qui m'aime et qui prend soin de moi. Je vous lis un psaume, juste quelques versets dans un psaume, et je vous le lis pour ceux qui se sentent dans leur cœur orphelin. Parce que peut-être vous l'êtes, en réalité, ou peut-être vous n'avez pas eu de bons parents. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. C'est dans le psaume 27. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Et celui qui en vient à connaître le Dieu de la Bible, celui qui en vient à connaître Dieu le Père, a un Père qui jamais va l'abandonner. Et dans cette relation-là avec mon Père céleste, je peux apprendre maintenant à honorer mes parents. C'est pour ça que je vous disais au début, si vous avez de la difficulté à honorer vos parents, probablement que ça parle beaucoup de votre relation avec Dieu. Probablement que ça parle beaucoup de votre relation avec le Père. Cultivez cette relation-là avec le Père. Vous allez trouver après ça une grâce, une facilité, des réponses, des solutions pour honorer vos parents sur la terre. Mais Jésus-Christ aussi nous enseigne. Jésus-Christ aussi nous enseigne. Parce que Jésus est venu comme un fils. Et il vivait une harmonie, une communion parfaite avec son Père. Jésus-Christ est glorieux, il est puissant. Vous savez, là, la difficulté qu'on a, je pense, lorsqu'on on est jeune, dans cette idée d'honorer nos parents, c'est qu'on a l'impression que ça enlève de notre valeur. Ça enlève de notre autonomie, de notre force personnelle. On sent le besoin de dire qu'on est autre que nos parents. Puis pourtant, étrangement, vous avez ce personnage-là, Jésus-Christ, qui est l'homme le plus fort de l'histoire de l'humanité, moralement, en rectitude, en charisme, en amour, en compassion. Vous avez l'être le plus fort et il dit « Toujours je fais la volonté de mon Père. Toujours je suis en communion avec mon Père. » On va passer un temps de louange ensemble. Et Dieu va continuer à parler à nos cœurs. On peut être tenté de se dire, oui, mais Yannick, tu sais, Jésus avait quand même un Père parfait. C'était facile à obéir, celui-là. Facile à honorer. Ben, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein? Il y avait un Père parfait, c'est vrai, mais Jésus est né d'une mère naturelle. Et il a eu un père adoptif, Joseph. Et si, dans votre imaginaire, vous imaginez ces deux gens-là comme des gens parfaits, détrompez-vous. Oui, Joseph est décrit comme quelqu'un qui était bon, c'est vrai, puis Marie est définitivement une femme pieuse, mais ce sont des pécheurs, et c'est certain que comme fils, comme enfant, Jésus a été exposé dans des situations où ils ont péché, c'est évident, c'est certain. Et pourtant, il a toujours cherché à les honorer. Et même au moment où il est sur la croix, Jésus est encore en train de penser à sa mère parce qu'il dit « Je ne serai pas là dans ta vieillesse pour prendre soin de toi. » Et il confie sa mère à l'apôtre Jean. C'est vraiment extraordinaire. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire dans les Écritures, ce qu'il y a de plus extraordinaire dans les Écritures, c'est ce que Jésus est venu faire en mourant sur cette croix. Et c'est vraiment là la clé. C'est vraiment là la clé pour apprendre à honorer nos parents. Jésus qui vivait cette intimité avec son Père céleste, qui honorait constamment son Père céleste, qui vivait cette communion, il n'avait pas besoin que son Père lui dise « Honore-moi, mon fils ». Ils étaient dans cette harmonie. On est dans la Sainte Trinité, d'accord? Jésus-Christ va venir, il va continuer à honorer son Père, et cette harmonie-là va être brisée. Parce que Jésus va venir mourir sur cette croix. Il va venir mourir sur cette croix et cette harmonie qui était parfaite, qui est dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, des enfants devraient honorer des parents et des parents devraient prendre soin des enfants. Et là, sur la croix, Jésus a subi une sainte colère de son Père céleste. Une sainte colère, pas dans le sens péjoratif du terme, là. Tu sais, quand un parent dit « Ah, tu vas subir une sainte colère! » Non, celle-là était justifiée. Parce que sur cette croix, ce fils qui était parfaitement en communion avec son Père a été fait péché. A été fait péché. Afin qu'à notre retour, on puisse placer notre foi en lui, être pardonné de nos propres péchés. Alors, je ne sais pas quelle est ta relation avec tes parents ce matin. Je ne sais pas si ce matin, en te levant, tu t'es dit, « Faut que j'appelle ma mère. » Moi, j'étais sur le téléphone à 7h20 un matin. « Salut, maman. Hey, bonne fête des mères. » C'est clair. Je ne sais pas quelle relation tu as avec eux. Je ne sais pas si tout ça, c'est difficile. Mais le secret, c'est d'aller à la croix. D'aller à la croix. De reconnaître que tu es pécheur. Puis de reconnaître que dans cette famille-là, là, parfaite, là, le Fils a été fait péché pour toi. Afin que tu puisses être pardonné de tes péchés, que tu puisses devenir un enfant de Dieu, et qu'en regardant ensuite Jésus et le Père, tu puisses apprendre à honorer tes parents à ton tour. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ton sacrifice, pour ton amour. Je veux te bénir, Seigneur, tu es tellement merveilleux. Père éternel, je veux te remercier pour ton amour. Parce que lorsqu'on place notre foi en toi, Jésus, on devient un enfant de Dieu. Et dans cette intimité avec toi, Seigneur, on apprend à t'aimer et on apprend à honorer nos parents. J'aimerais te prier ce matin, Père, pour tous ceux et celles qui ont de la difficulté à honorer leurs parents. Premièrement, dans une attitude de cœur, ensuite dans un respect pour ceux qui sont à la maison, dans une obéissance aussi. Pour ceux qui ont des parents vieillissants, puis qui ont eu des parents mal commodes, trouvent ça lourd de prendre soin d'eux dans leur vieillesse, Seigneur. J'aimerais te prier pour chacun d'entre nous qui pouvons avoir de la difficulté parfois à honorer nos parents. Je te demande, Seigneur, de nous enseigner à les aimer, à les chérir, à ne pas les prendre à la légère, mais à reconnaître qu'ils sont nos parents qui nous ont donné la vie, aussi imparfait soit-il. Seigneur, ce matin, j'aimerais particulièrement te prier pour les mamans. Les mamans qui ont toujours eu une tâche hyper exigeante à travers l'histoire de l'humanité, puis on dirait à notre époque que c'est encore plus fou, Seigneur, alors qu'il y a juste plus d'assiettes à faire tourner. Je prie, Seigneur, pour les mamans, je te demande de venir les chérir aujourd'hui, les bénir aujourd'hui, leur donner de la joie dans le cœur, Seigneur. Celles qui ont le cœur lourd, le cœur triste, je te demande de les aider à tourner leur regard vers toi aujourd'hui, pour trouver en toi, Père, leur consolation, l'amour qu'ils ne trouvent peut-être pas toujours, Seigneur. Je te prie pour celles qui rêvent d'être mères et pour qui c'est difficile parce que c'est là sur leur cœur ce rêve-là. Certaines d'entre elles ne pourront jamais l'être, Seigneur. Je prie aussi de les bénir dans leur communion avec toi, qu'ils trouvent en toi et dans la famille de Dieu cette famille qu'elles n'auront peut-être pas, Seigneur. Seigneur Jésus, par expérience personnelle, je peux dire que tu combles tous nos besoins. Tous nos besoins. Je te prie pour nos enfants, Seigneur, qui trouvent des fois difficile d'honorer leurs parents. Enseigne-leur, Seigneur, parce qu'on veut les voir te glorifier plus tard. On veut les voir être des citoyens qui te glorifient aussi dans tous leurs rapports, leurs relations, Seigneur. Alors viens nous faire grandir comme Église et que nous soyons une famille où les parents sont honorés, sont respectés, sont aimés. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ.